Rebonjour. Vous m'entendez bien comme ça? Non, vous ne m'entendez pas. Peut-être qu'il faut augmenter le micro parce que je ne veux pas crier non plus. C'est bon comme ça? Super. C'est un plaisir d'être là. C'est un honneur de pouvoir partager ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. C'est aussi des guili-guili. Voilà, de parler devant vous. Vous êtes magnifiques. Cette vue-là, elle est magnifique. Avec tous, des grands, des petits, des moyens, tout. C'est magnifique. Alors, je voudrais commencer par vous poser trois questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est ça? C'est un tableau, enfin c'est un schéma. On voit une cellule, une division, on en voit deux. C'est la division cellulaire. Vous aviez trouvé, n'est-ce pas? Super, merci. Ensuite, j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que c'est ça? On voit un H, un F. La famille, magnifique. Magnifique, on voit la famille qui se multiplie. Troisième et dernière question. Qu'est-ce que c'est ça? L'église. Effectivement, on voit un grand cercle. Des grands cercles, des petits, certains qui rentrent, d'autres qui partent et qui se multiplient. Effectivement, c'est l'Église. Vous avez vu que dans ces trois schémas, il y a un même développement. Il y a la croissance, il y a la vie. À chaque fois, c'est quelque chose qui grandit. Et je crois que c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est la croissance, c'est la vie. C'est jamais quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui continue, qui se multiplie. De la plus petite cellule jusqu'aux animaux, jusqu'à nous en tant qu'êtres humains, il y a la multiplication. Ça ne s'arrête pas. La famille, l'Église. Même nous, en fait, vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, on se ride, à un moment donné, on se fripe, on devient vieux, un jour, on meurt. Non, jamais, jamais. C'est vrai. Mais en fait, même de friper, même de vieillir, même un jour que notre enveloppe terrestre, elle craque, c'est pour une croissance dans notre futur céleste. Vous mettez un grain de blé ou une lentille dans un verre, à un moment donné, elle va craquer et vous aurez cette pousse qui va sortir, qui va produire des fruits plus encore. Et nous, c'est pareil. Nous, sur Terre, c'est une partie. Un jour, on va craquer, mais un jour, on aura notre héritage au ciel. Donc, ce matin... Voilà, il y a ces trois notions. Il y a l'unité. L'unité. Quand il y a l'unité, il y a la famille. Et quand il y a la famille, il y a la multiplication. Il y a la croissance. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de science ce matin. Ce n'est pas tellement mon domaine. Il y en a d'autres qui seraient bien plus qualifiés pour ça. Mais j'avais envie de développer avec vous la famille. J'avais envie de développer la famille parce que quand Dieu a créé l'univers, étape après étape, il a confié la responsabilité de la nature à l'homme. Et quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné une mission. Il leur a dit, quitte ton père et ta mère, attache-toi à ta femme, ayez des enfants, multipliez-vous, peuplez la terre. Il y a vraiment cette notion de multiplication au sein de la famille. La famille, c'est quoi? La famille, c'est un lieu de protection, c'est un nid. Un nid. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui parlent de l'oiseau, qui parlent de ce nid. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu, parce que Dieu prend soin de vous, encore plus qu'il prend soin des oiseaux dans le ciel. Il y a beaucoup cette image-là dans d'autres versets aussi, de l'oiseau, du nid, de cette protection. Et est-ce que vous avez déjà regardé un documentaire qui parle des tortues marines? J'en ai vu une fois. J'ai vu une grosse tortue sortir de la mer, avancer dans le sable, péniblement, de par sa lourdeur, de par son poids, de par sa grandeur. Elle fait un trou dans le sable, elle pond ses œufs, elle referme, et elle retourne aussi péniblement jusqu'à la mer. Il faut attendre un petit moment, enfin, il faut attendre un moment. Et ensuite, ses œufs, ils éclosent, et on voit des petites tortues sortir du sable et avancer le plus vite possible avec leurs petites pattes jusqu'à la mer. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de prédateurs. Et sur les 100% de tortues qui sortent des œufs, il n'y a jamais 100% des tortues qui vont à la mer et qui grandissent. Et dans toute la Bible, j'ai trouvé aucun verset qui parle de tortues. Aucun verset. Parce que je crois que ce que Dieu il veut pour nous, ce n'est pas l'exemple de la tortue. Ce n'est pas l'exemple des gens qui se convertissent, on les laisse grandir, puis on verra bien ce qui doit advenir. Et non, ce n'est pas ça. Dans les images que Dieu utilise dans la Bible, il y a ce nid, il y a cette protection, cette dépendance aussi. Parce que ces petits oisillons, quand ils sortent de l'œuf, eh ben, ils n'ont rien. Si ce n'est pas les parents qui viennent les nourrir, ils n'ont rien, ils sont vulnérables. Et je crois que cette image-là, elle nous parle à nous en tant que corps, en tant qu'église. Dans la famille, il y a cette nourriture, une nourriture qui est adaptée. Vous prenez le lait maternel, il est adapté du premier jour où l'enfant naît jusqu'à ce qu'on arrête l'allaitement. Il est adapté à chaque phase de croissance. Et nous, en tant que parents, on donne à manger à nos enfants à chaque fois ce qu'il faut pour leurs besoins. C'est adapté, c'est une nourriture adaptée. On les élève, on les prend de tout petits, les enfants, et dans la famille, et on les élève jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. On les guide, on leur apprend à prendre les bonnes décisions. On leur apprend dans leurs choix à les responsabiliser, à leur dire « qu'est-ce que tu choisirais là ?» etc. Et on les enseigne. On leur apprend la vie, en fait. On leur apprend comment tenir un foyer. On leur apprend tout ce que nous, on sait, on essaie de leur apprendre. On les enseigne. La famille, c'est un lieu où on peut grandir en sécurité. C'est ce que ça devrait être. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent bien des souffrances, bien des douleurs. Mais ce que le Seigneur a prévu pour nous, initialement, c'était ça. Et je crois que ça doit être notre objectif. Dans la famille, il y a la croissance du plus petit jusqu'à ce qu'il naisse, jusqu'à ce qu'il devienne mature, jusqu'à ce qu'à son tour, il puisse fonder une famille. C'est un cercle perpétuel, ça ne s'arrête jamais. Et ça amène la croissance et la multiplication. La famille, la cellule familiale, mais la famille aussi, l'Église. Tous ces mots de protection, de nourriture, d'élever, de guider, ça s'applique à l'Église aussi, parce que l'Église, c'est une famille. Éphésiens 2, au verset 9, dit « Vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus des ennemis, vous n'êtes plus des gens de passage. Vous êtes membres de la famille de Dieu. » On est tous membres de la famille de Dieu, membres les uns des autres. Et la famille et l'Église, c'est le numéro un. Il y a ces deux aspects, la famille, la cellule familiale, mais la famille aussi spirituelle, l'Église. Et c'est le numéro un. Le numéro un dans le début de la vie. Autant la famille, elle fait naître les bébés, autant l'Église fait naître aussi des nouveaux convertis, des gens qui croient en Dieu. Il y a cette croissance d'un enfant, d'un bébé spirituel, d'une personne qui se convertit jusqu'à ce qu'elle apprenne tout, jusqu'à ce qu'elle grandisse avec Dieu. La famille et l'Église ont un impact autour de nous. Si vous êtes une famille avec des enfants et que vous criez, vos voisins vont l'entendre. Si vous cuisinez dans votre foyer, les voisins vont le sentir. On a un impact autour de nous, autour de nos voisins. Quand on chante ici le dimanche matin, surtout quand il fait chaud et qu'on ouvre les portes, les gens autour ils nous entendent. Une famille, une église, ça a un impact autour de nous directement. Mais ça a un impact aussi dans la culture. Parce qu'une famille se multiplie, font des enfants qui vont prendre des postes à responsabilité, qui vont travailler à des endroits, qui vont impacter en fait les gens autour d'eux, à différents moments, à différents endroits. Et la famille, c'est le fondement d'une société. Je crois vraiment que c'est le plan de Dieu. Cette mission-là que Dieu donne à la famille, c'est parce que c'est un fondement pour la société. C'est une sécurité, c'est quelque chose de stable. Touchez à la famille et vous verrez l'équilibre qui bouge. On peut le voir aussi hein, dans notre société aujourd'hui. Ce qui est intéressant, j'ai essayé dans la Bible, j'ai essayé de prendre la racine du mot mère en grec et je suis allée voir tout ce qui avait trait à la mère et les versets qui l'entouraient. Et en fait, j'ai pu voir à chaque fois qu'il était question des enfants ou qu'il était question de la famille, c'était toujours associé au père. J'aurais pu faire la même chose avec le père et retrouver la même chose. Parce qu'en fait, à chaque fois que Dieu s'adresse à la famille avec les enfants, il s'adresse au père et à la mère. Ils sont indissociables, complètement indissociables. Dieu s'adresse vraiment à eux comme s'ils sont un. En fait, oui, ils sont un. Dieu dit, soyez un et multipliez-vous. Il y a vraiment le Père et la Mère. Alors bien sûr, il y a des situations où il n'y a pas les deux. Mais je crois que l'Église offre aussi peut-être l'autre qui manque pour un temps, pour le temps qu'il faut. Ce matin, je voudrais mettre l'Église au milieu du village. Je voudrais mettre les parents au milieu de la famille. On le sait. Quand on se marie, on le sait que c'est notre responsabilité. On nous dit, si vous avez des enfants, vous allez être responsable. C'est à vous d'en prendre soin, de les protéger. Oui, on le sait, on a signé. Mais j'aimerais le redire, les parents, le père et la mère, sont responsables du foyer, sont responsables de la famille. Ils ont ce devoir de direction. Ils ont l'autorité qui va avec aussi. Alors, c'est un grand défi hein, dans notre société. Souvent, il y a les parents, les deux parents qui travaillent, le père, la mère. Vous prenez sur une journée, il ne reste pas beaucoup de temps avec les enfants. Le temps qui reste, c'est douche, manger, pyjama, laver les dents, au dodo. Allez, une histoire encore. Il n'y a pas beaucoup de temps, des fois, pour ceux qui travaillent. Il est où le temps, alors, pour vivre? Il est où le temps pour prendre du temps, pour être impacté par ce que Dieu veut pour nos familles? Et aussi pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour nos familles. La République aussi, elle a de plus en plus de lois qui font que, elle a cette volonté de vouloir rendre nos enfants républicains. Mais nos enfants, ils nous appartiennent à nous avant tout. On ne doit jamais l'oublier. Même si l'école nous rend un grand service de les garder la journée quand on travaille, mais notre responsabilité sur nos enfants, c'est nous. Alors oui, des fois, il y a des plannings très chargés. Des fois, c'est beaucoup de pression. Des fois, c'est du stress. Et ce matin, je voudrais sortir un panneau stop. Je voudrais sortir un panneau pause. Et si on réfléchissait un petit peu? Si on prenait juste le temps de réfléchir par rapport à nos familles et par rapport à l'Église? Parce que vous avez bien compris, il y a cette cellule familiale, mais il y a aussi cette cellule de l'Église qui est une famille avec des liens. Notre regard à nous sur nos familles, elle ne doit pas être dépendant de ce que la société dit sur la famille. Notre regard sur nos propres familles, elle doit être dictée par ce que Dieu veut, par ce qui bat dans le cœur de Dieu. Je vais vous lire un passage dans Deutéronome 6. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Dieu nous a donné des préceptes, Dieu nous a donné des valeurs, des lois dans son royaume, qui n'est pas tout à fait les mêmes que des fois ce qu'on peut trouver autour de nous dans notre culture. Mais Dieu nous a donné ça pour qu'on les mette en pratique. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, famille Chouznou, et tu les observeras. Tu les écouteras donc, famille de Vogel. Tu les écouteras, famille Bastien, et tu les mettras en pratique, afin que tu sois heureux et que tu te multiplies. Beaucoup, comme je te l'ai dit. L'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, famille Trefcon. Écoute, famille Maglietto. C'est ça? Maglioli. Close. J'en ai appris quelques-uns juste avant. Écoute, l'Éternel est un. L'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontons entre tes yeux, comme un bandeau. Tu les écriras sur tes poteaux, de ta maison et sur tes portes. Il y a de quoi se rappeler hein, toutes ces lois de l'Éternel. Dieu avait placé Israël dans le pays qu'il lui avait promis et lui a dit « applique ces lois ». Dieu a placé cette église de Marguerite dans un village, dans un pays, avec ses lois pour qu'elle les mette en pratique. Et le Seigneur nous a placés en tant que famille dans des villages, dans des villes, pour que le Seigneur, avec des lois, pour qu'on les mette en pratique. Ces lois, ce n'est pas uniquement les 10 commandements. C'est plein de choses. Aujourd'hui, vous pouvez aller fouiller dans le Nouveau Testament. C'est rempli de valeurs. C'est rempli d'histoires que Jésus nous laisse pour nous montrer mais à quoi ressemble son royaume. Parce que dans le royaume des cieux, de Dieu, et donc ce qu'on doit appliquer, le plus grand, ce n'est pas celui qui domine. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et tout ça, c'est à transmettre à nos enfants. Dans un autre verset, Dieu dit, encourage aussi son peuple. Il dit, mais n'oubliez pas tout ce que j'ai fait pour vous. N'oubliez pas le Pharaon. N'oubliez pas les plaies d'Égypte. N'oubliez pas votre situation d'esclave. Et je crois que nous, en tant que famille, on ne doit pas non plus oublier d'où on vient. Et nos enfants, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Ils ont besoin de savoir d'où venaient nos grands-parents. Ils ont besoin de savoir d'où on vient, nous, ce que le Seigneur a fait pour nous, comment il nous a sauvés, et connaître les grâces que Dieu a mises dans nos vies. À chaque anniversaire, les enfants, celui qui a l'anniversaire, il nous dit « Raconte-moi encore comment je suis née. » Et chaque fois, on raconte la même histoire. Mais ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Parce que s'ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils sont. Et ils savent où aller. Parce qu'ils voient qu'il y a un Dieu fidèle. Dieu nous demande de les enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais peut-être que vous avez un neveu ou une nièce, ou peut-être que vous avez un voisin pour lequel vous pouvez jouer ce rôle de famille. On a tous une famille. Peut-être qu'il y a des liens certains qui sont compliqués. Peut-être que Dieu demande de restaurer certains liens, comme Maïté nous en a parlé plusieurs fois avec sa propre famille. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de membres de notre famille, mais Dieu nous donne de pouvoir nous attacher à des personnes qui sont comme une famille pour nous. Et l'Église, c'est ça. Afin que tu craignes Dieu, afin que tu craignes l'Éternel. Craindre Dieu, ce n'est pas attendre en tremblant que Dieu nous parle. Craindre Dieu, pour moi, c'est être tellement convaincu que Dieu nous aime, que Dieu a des plans de bonheur et des plans justes pour ma vie, que je peux ouvrir les bras et dire « Oui, Dieu, toi dans tous les domaines de ma vie, je veux aligner tous les domaines de ma vie à ce que tu veux. » Parfois c'est dur, parfois ça demande du courage, parce que quand on choisit nous-mêmes nos propres décisions et qu'on remarque que ce n'est pas le bon, des fois ça implique des conséquences ou des décisions pas faciles. Mais craindre Dieu, c'est accepter de remettre tous les domaines de sa vie sous sa direction et d'accepter un changement. Et ça se transmet de génération en génération, afin que tu sois heureux. Parce que c'est vraiment ce que le Seigneur y veut pour nous, c'est qu'on soit heureux. Alors, il a dit que mes préceptes soient dans ton cœur. C'est avant tout aussi une démarche personnelle. Que tes préceptes soient dans ta maison, que tu en parles quand tu es dans ta maison, là où on est ensemble, là où on s'assoit ensemble. Parle-en, écris-les sur tes portes, écris-les sur les murs de ta maison. Quand tu vas en voyage, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu manges. En gros, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit se rappeler ce que le Seigneur fait pour nous. On doit se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et on doit l'enseigner à nos enfants. Quel temps est-ce qu'on prend dans nos familles pour ça? Alors, vous avez compris la cellule familiale. Mais si ce n'est pas cette famille-là, il y a peut-être quelqu'un d'autre pour qui vous pouvez être une famille. Quel temps, quelle organisation on a pour s'occuper de transmettre ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu a fait, de rappeler cette histoire. C'est tellement important. C'est tellement important. Et c'est pour ça que je dis un stop aujourd'hui, parce que Dieu nous dit, vous êtes dans un monde, vous êtes dans cette ville, vous êtes dans ce village, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Et pour ça, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait. Le peuple d'Israël, il avait cet ordre de Dieu de dire, attention, le jour où tu te rassasies de plein de choses, le jour où tu ne manques de rien, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Et dans notre pays, on est privilégié. On ne manque pas souvent de choses. Rappelons-nous, n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Et partageons-le avec nos enfants. Alors, ce matin, je n'ai pas de bracelet ni de mezouza. Vous savez, les mezouza, c'est ce que les Juifs, ils ont à l'entrée de leur maison pour rappeler cette alliance, pour rappeler ces préceptes, ces commandements. Je n'ai pas ça à vous donner à la fin du culte pour vous rappeler de ce que Dieu a. Mais je crois que le Seigneur, il mettait un panneau, stop, pause. Et il disait, mais prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de réfléchir. En même temps, il y a cet appel-là sur la famille. Peut-être que ce matin, tu te dis, oui, mais en fait, je sais que je suis responsable de ma famille. Mais le Seigneur, peut-être qu'il te parle sur certains points. Comment tu organises ta famille? Là, on va passer par 2 mois d'été. Ces 2 mois d'été, on a le temps, il y a moins d'organisation, il y a moins de réunions, il y a des temps de vacances, il y a plus de temps en famille, plus de temps les uns avec les autres. Alors comment je vais réfléchir mon organisation? Comment je vais aligner ma vie, mon agenda sur ce que Dieu veut pour moi? Charles Nicolas qui était venu parler sur les visites pastorales, sur le ministère pastoral dans l'église, avait dit, si tu vas en visite chez d'autres personnes, assure-toi que ton foyer soit en règle, que ton foyer soit un lieu de ressourcement pour toi. Et je crois que c'est tellement important. Développer les dons de l'esprit dans l'église, mais oublier sa famille, à un moment donné, ça fait des souffrances. Et je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut. Seigneur, il veut que nos dons soient d'abord vécus dans notre famille, auprès de nos enfants. Ce n'est pas toujours le plus simple. Mais je crois que c'est là le meilleur apprentissage. Et puis, il y a cet appel-là pour l'Église. L'Église en tant que famille de Dieu. Les liens entre nous. Cette année, j'ai été interpellée en accompagnant mes enfants aux compétitions de judo et de gymnastique, de voir que mon fils, sa première année de judo, on va lui enseigner les règles du judo pour qu'il puisse être jury l'année prochaine aux compétitions. Il a 10 ans. Je dis, waouh! Donc on lui apprend les règles et l'année prochaine, il fait partie du jury. Mes filles, c'est pareil, elles ont 7 et 9 ans. Au programme l'année prochaine, c'est on vous apprend les règles pour que vous puissiez noter les enchaînements à la gym. Et ensuite, vous pourrez faire partie avec des plus grands du jury. Mais c'est magnifique. Mais j'ai pris une claque. Hein, parce que des fois, dans l'église, on attend 30 ans et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes de 30 ans? Et oui, tout petit. Et si on allait chercher les enfants? Chacun, pas juste les parents. Si chacun en allait chercher les enfants, les plus jeunes que nous, qu'on leur apprenait ce que Dieu veut pour eux, et ensuite qu'on les mettait au challenge, allez, vas-y, tu vas y arriver, et qu'on les accompagne là-dedans, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Une église, c'est là où chacun a sa place. Alors je crois que le Seigneur, il a vraiment cet appel sur nous ce matin. Dieu cherche des cœurs de père, Dieu cherche des cœurs de mère. Et j'aurais envie d'inviter un couple à venir parler sur ce cœur de père, sur ce cœur de mère. C'est vraiment un couple que j'apprécie beaucoup et qui ont ça, qui vibre dans leur trip. Henri Aline, vous pouvez venir. Je vais leur laisser la parole. Ils ont prévu quelques mots. Je vais laisser.
Merci Véro. Franchement, tu es épatante. Et je te soupçonne d'avoir un micro chez moi. Franchement. Bon. Alors, le terme de mission, il a été dit. Pour nous, la famille, c'est une mission originelle. C'est la plus grande des missions. Pour nous, c'est la famille. C'est de réussir une famille unie. C'est une mission, c'est le plus gros défi de tous les temps, pour un couple. Et on a un petit slogan, en fait, pour notre famille, c'est que nous souhaitons donner à nos enfants des racines et des ailes. Alors moi, je vais vous parler des racines, Henri vous parlera des ailes. Les racines, pourquoi ? Ben pour que vraiment nos enfants puissent un jour, quoi qu'il arrive, être solides, rester debout, rester vraiment fermes dans ce qu'ils sont. Voilà, ne pas être balancés au gré du vent, au gré des épreuves, mais rester vraiment fermes. Alors les racines, quelles sont-elles ? Alors il y en a des grosses, bien sûr, il y a des petites racines, mais parmi la plus importante, à mes yeux, de la racine qui pousse dès la naissance, c'est l'amour. C'est accueillir et aimer nos enfants tous les jours. Tous les jours. Les aimer d'un amour inépuisable tous les jours. Et quand je dis aimer, c'est pas juste, voilà, c'est normal qu'un père et une mère aiment leurs enfants. Pour moi, c'est le dire, le montrer, les toucher, les... les câliner, les bisouter, les féliciter, les encourager, voilà, tout ça. Tout ça, pour moi, fait partie de l'amour. Et quelque part, je suis persuadée que si on accueille, si on aime nos enfants comme ça, eh bien, on leur donne déjà un petit morceau de Dieu en eux, parce que Dieu est amour. Et l'amour, en fait, les ouvre à tout ce qu'ils pourraient recevoir après de la part de Dieu. Parce qu'un enfant qui n'est pas aimé, il devient rebelle, il devient réfractaire. Et un enfant qui est aimé, eh bien, il s'ouvre. Il s'ouvre aux choses. Et du coup, la deuxième racine, pour moi, c'est forcément l'attachement à leur créateur. Voilà, les ramener à celui qui les a créés, à leur sauveur. Ça, c'est pour moi la deuxième racine. Ensuite, ben, voilà, les éduquer, comme tu as dit, avec les valeurs ben, que la Bible nous enseigne, du mieux qu'on peut, parce qu'on n'est certainement pas parfait, on fait tous du mieux qu'on peut, mais voilà, leur apprendre la reconnaissance, l'obéissance, le pardon, la réconciliation, toutes ces choses-là qui s'exercent tous les jours, quoi. Tu as dit que la famille, c'est une mini-société, mais c'est carrément ça, parce qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour des frères de s'exercer dans leur sein de leur famille, à trouver des arrangements, des réconciliations, des solutions pour vivre mieux. C'est excellent. La famille, c'est vraiment la première petite société. Après, notre rôle de père, de mère, c'est aussi leur créer un environnement sécurisant, voilà, un abri où ils pourront toujours venir se ressourcer et se sentir bien. Le jour où ça bardera, eh bien, voilà, on est là. On est toujours là. Et puis, développer leur identité. Ça fait partie aussi, comme tu l'as dit, Véro, de savoir qu'ils font partie d'une histoire de famille. Alors, si parfois les histoires de famille sont belles, parfois elles sont un peu moins belles, mais on a les histoires qu'on a, on ne peut pas les changer. Mais par contre, la Bible regorge de belles histoires, vraies, et on peut se les approprier. Et moi, je me les approprie. Là où, quelque part, notre histoire à nous, elle est écorchée, c'est pas la peine de couvrir par des mensonges, mais il y a des histoires dans la Bible que je me suis faite mienne. Et donc, ça fait partie de leur identité, de savoir effectivement qu'ils font partie de la famille Bastian, voilà, Bastian Meyer, mais qu'ils ont été greffés sur la famille de Jésus. Et ça, c'est essentiel pour qu'ils puissent grandir de façon, j'irais, équilibrée. Voilà pour les racines. Vous avez les vôtres aussi.
Alors moi, je vais vous parler des ailes. Donc les ailes, c'est déjà pour que... Au revoir. On les aime, mais Dieu nous les prête. Et à un moment donné, il faut... Moi, je dis souvent, moi, je me souviens très bien avoir coupé 3 cordons ombilicaux. Et un jour, ben, mes enfants partiront. Et ça fait partie du rôle de parents. Même si ce n'est pas forcément facile parce qu'on les aime, mais ça fait partie. Et si effectivement les racines, si le fondement est bon, moi je me réjouis pour ce que vont vivre mes enfants. Même si je ne serai pas forcément avec eux et à côté d'eux, mais je sais que Dieu est avec eux. Et du coup, ça m'apaise. Donc des ailes pour décoller. Quand on a préparé ces quelques mots avec Aline, je repensais à un reportage que j'ai vu sur des oiseaux. Donc un couple d'oiseaux qui allaient mettre leur nid, mais très 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 haut, je ne sais pas, quoi, des centaines de mètres, et en bas il y avait le vide. Et à un moment, quand les petits ils grandissent, à un moment vous avez les parents qui, salut, ils partent. Et les enfants doivent les suivre. Il y en a forcément qui n'arrivent pas en bas en entier. Ce n'est pas ça à nous. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On veut libérer nos enfants, mais avec tout ce qu'ils ont emmagasiné durant le temps avec nous et durant ce que Dieu a permis. Donc leur donner des ailes pour qu'ils puissent partir. Ça nous permet à nous, en tant que parents, d'être confiants. Leur permettre de devenir des adultes responsables. On ne peut pas demander, je ne peux pas demander à David de devenir un adulte responsable si je le garde bien sous ma main, sous mon emprise. Ça ne marche pas, ça. Les aider à rentrer dans leur appel. On a eu, nous, là, comme beaucoup de parents, Dieu s'est manifesté dans la vie de nos enfants. Dieu a donné des paroles sur nos enfants. Et Dieu a dit, voilà, toi, David, je te veux là-dedans, par exemple. En tant que parent, on a entendu ça. On va les accompagner là-dedans. On va être solidaires avec eux, on va les aimer avec eux. Mais on va surtout les aider à rentrer dans ce que Dieu leur demande. Et ce qui est super à la fin de tout ça, même si nous on n'est qu'au début puisqu'on a encore nos trois enfants à la maison, c'est de se dire, un jour, tous les deux, on sera tout seul, ils seront partis, et on dira encore et encore, merci Seigneur. Parce que quand on voit ces trois gars qui s'envolent, qui volent leurs propres ailes, et qu'on voit que le travail que tu as fait, parce qu'on n'est que des instruments, hein, que tu as fait, on se dit, maintenant on peut être tranquille. Tes enfants, c'est après. On a la foi. Mais voilà, c'est sûr que c'est le fait de se dire, on a simplement donné ce que Dieu nous a donné. Et à partir de là, on a juste transmis. Moi, j'aime bien le mot trait d'union. On est un trait d'union entre Dieu et nos enfants, dans l'éducation, dans la foi, jusqu'au jour où ils vont. Mais on ne fait rien d'autre. Mais si ça, on le fait correctement, avec l'approbation du Seigneur, c'est pas flippant, hein. C'est que du bonheur.
Merci beaucoup. C'est plein d'exemples concrets, d'exemples pratiques. Ça parle, c'est génial. Donc oui, ce matin, c'est vraiment ça. C'est la famille, la cellule familiale. Où on en est chacun? Où on en est? Et l'Église en tant que famille. Alors je ne sais pas s'il y en a certains pour qui ça a particulièrement parlé. Le cœur de mère, le cœur de père. Protéger, aimer, écouter. C'est prendre soin, c'est conseiller, c'est encourager, c'est prendre du temps, c'est servir, c'est aller vers tous ces mots. J'aimerais vraiment que vous puissiez, si vous avez besoin de fermer les yeux, vous fermez les yeux, mais vous connectez vraiment avec Dieu. Et si ce cœur de père, pour votre propre famille, par rapport à vos propres défis, ça vous parle. Ou si ce cœur de père, ce cœur de mère, ça vous parle pour l'Église. Parce que vous sentez comme un appel de maman ou un appel de papa pour cette Église. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez vous lever. J'aimerais que vous puissiez vous lever et dire oui. Je sens ça. Peut-être que je sens ce cœur de maman, de cœur de papa. Pas forcément, je n'ai pas d'enfant, moi. Mais j'ai des personnes pour qui j'ai envie d'être ce papa et cette maman. Si c'est quelque chose qui résonne dans vos cœurs, j'aimerais vous demander de vous lever comme un signe d'engagement avec Dieu, oui. Dieu, tu vois ce que tu fais dans mes tripes. Je sens que tu bouges mes tripes, je sens que tu bouges mon ventre. C'est vrai qu'on parle souvent de tripes parce que quand on est une mère et qu'on porte ses enfants, on le sent dans le ventre. Et des fois, l'amour qu'on peut avoir pour d'autres personnes qui sont comme des enfants, c'est pareil. Dieu, il a pas accouché, mais il a dit que c'est comme des douleurs de l'enfantement. Des fois, on a cette douleur-là au ventre. Si le Seigneur y met ça, oui Seigneur, tu vois ce que je ressens. Tu vois que j'ai envie, que ça palpite pour moi d'être un papa, d'être une maman. Je ne sais pas encore exactement peut-être ce que ça veut dire, ou peut-être que tu me donnes déjà des idées de ce que ça veut dire, de qui aller voir. Ça veut dire ne pas rester dans mon propre petit enclos, mais ça veut dire sortir. Ça veut dire prendre un risque. Ça veut dire être vulnérable. Ça veut dire s'adapter. Oui, c'est des fois inconfortable et ça prend des risques. Mais Seigneur, c'est ce que tu appelles sur certains en particulier. D'être ce papa, d'être cette maman. Alors merci Saint-Esprit parce que ce matin tu viens, tu as parlé et tu oins. Tu oins. Tu donnes ton autorité, tu donnes ton amour, tu donnes ta patience. Tu donnes tes mots, tu donnes ta créativité. Merci parce qu'une famille c'est toujours vivant. Une famille c'est toujours une croissance, une famille c'est toujours en développement. Cette église est toujours en croissance, toujours en développement. Elle est vivante. Merci pour ces liens qui existent entre nous, ces liens d'amour. Merci parce que tu veux tisser encore quelque chose de plus fort. Merci parce que chacun a sa place. Il n'y a pas un qui peut dire « si je ne suis pas là, je ne manque pas ». On a tous notre rôle. On est tous un corps. Merci pour ton esprit, parce que tu viens révéler en nous ces choses. Tu viens révéler en nous ce cœur de papa, ce cœur de maman. Pour nos familles, pour nos églises, pour notre église, Seigneur. Je te prie pour cette dimension de famille encore plus, encore plus. Une maman et un papa, ça fait souvent beaucoup de sacrifices. Et le Seigneur, il dit oui. Être un papa et une maman, ça demande des sacrifices. Jésus, il allait même jusqu'au bout, en fait. Il a donné sa vie. Être un papa et une maman, ça demande des sacrifices. Et ce matin, si je suis debout, je veux réaliser que ça demande aussi des sacrifices. Ça demande de ne pas voir juste mes propres besoins. Ça demande de ne pas voir juste mon propre épanouissement, mais de voir celui de l'autre, de faire grandir l'autre. Merci parce qu'il y a ce temps d'été. Et vraiment, c'est un temps de réflexion, un temps d'organisation, un temps où le Seigneur peut nous parler. Parfois, pour certains, le temps d'été, c'est mort. Mais cet été, non. Cet été, je vais proclamer et prophétiser que c'est un temps de changement, un temps de liens qui sont restaurés, un temps de liens qui sont fortifiés. Parce que Père, tu es notre Père, tu es le Père de cette Église. Et tu prends soin de chacun d'entre nous. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je vous parlais tout à l'heure d'un été à la source. Pour donner une continuité à cette réflexion-là, je voulais vous proposer un texte par semaine. Dans ce texte-là, en fait, il y a un extrait de la Bible, on part de la Genèse et on arrive avant Abraham. Il y a un texte de la Bible, il y a un commentaire qui permet de nous challenger un petit peu sur ce que Dieu, sur le texte qui a été choisi. Et ensuite, il y a une application créative, une application concrète. Et cette application-là, je vous la mets au défi de l'appliquer. Ça va peut-être un peu au-delà de ce que vous faites d'habitude, mais c'est le but de ça. C'est qu'on reste en connexion, c'est qu'on reste en lien. C'est qu'en septembre, il y ait de nouvelles connexions dans cette famille. Il y a peut-être de nouvelles connexions pour nos familles. Donc c'est un été à la source de Dieu, mais avec notre Église, la source aussi. Vraiment plus de communion, plus de fraternité. Ceux qui sont en famille pourront le vivre en famille. C'est un défi aussi. Et ceux qui ont envie de se rapprocher les uns des autres, comme une famille, de le vivre ensemble. Je crois qu'il y a des maisons qui seront ouvertes cet été, une par semaine, à la place des groupes de vie. Retrouvez-vous, regroupez-vous et vivez ces choses ensemble.